Accent d'Europe, Juliette Rangeval.
Bonjour, qu'adviendra-t-il des réfugiés syriens en Turquie ? Il s'agit d'environ 3,5 millions de personnes prises en otage dans l'entre-deux-tours de l'élection, devenues les boucs émissaires d'une campagne très disputée. Une bonne partie d'entre eux est sans doute un peu soulagée de la victoire dimanche dernier de Recep Tayyip Erdogan, car le rival du président, Kemal Kılıçdaroğlu, a mené une violente campagne de dénigrement des réfugiés au risque d'attiser les tensions à Istanbul, à Nandlower.
Pendant toute sa campagne et de façon très virulente pendant l'entre-deux-tours, le candidat de l'opposition à la présidentielle, Kemal Kılıçdaroğlu, a stigmatisé, diffamé, criminalisé les réfugiés qui, en réalité, ne le sont pas légalement puisque la Turquie leur accorde un statut beaucoup plus fragile d'invité temporaire. Dans l'espoir de séduire les électeurs nationalistes, Kemal Kılıçdaroğlu a utilisé les Syriens pour faire peur, les accusant de menacer les femmes turques, de prendre le contrôle des villes, d'être, je cite, « de potentielles machines à crime ». Il a promis de les renvoyer chez eux, d'abord dans un délai de 2 ans, puis en 1 an seulement. Ce discours n'a pas suffi à porter l'opposition au pouvoir, mais il a certainement augmenté l'hostilité déjà bien réelle à l'égard des Syriens au sein de la société turque. Une hostilité qui ne cesse de croître avec la crise économique et qui a déjà pris par le passé un tour violent dans les villes et les quartiers où les réfugiés sont les plus nombreux. Recep Tayyip Erdogan, lui, continue de défendre sa politique d'accueil et plaide pour des retours volontaires en Syrie. Il mise pour cela, entre autres, sur un rétablissement des relations avec Bachar el-Assad, rompu depuis 12 ans.
Fraîchement réélu à la tête de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan sera l'un des 47 chefs d'État et de gouvernement qui participent au deuxième sommet de la Communauté politique européenne, la CPE, qui se tient demain à Chișinău, en Moldavie. L'occasion pour les Européens d'afficher un front uni face à Moscou. Depuis le début de la guerre en Ukraine, la Moldavie assume ouvertement son ambition européenne. Le pays a reçu, il y a un an, le statut officiel de candidat à l'adhésion, en même temps que Kiev. Mais les obstacles restent nombreux. Une partie du territoire échappe notamment au contrôle de Chișinău, celui de la Transnistrie. Sur place, Étienne Bouche a rencontré Oleg Serebrian, le vice-premier ministre chargé de la réintégration de cette république autoproclamée, soutenue par la Russie.
Si vous allez à Tiraspol ou à Bender, dans la région Transnistrie, tous les bâtiments administratifs ont 2 drapeaux. Le drapeau de la région transnistrienne et le drapeau de la Fédération russe. Donc ça parle beaucoup de leur choix, leur sympathie. Même si, disons, le CIDI président de la région, M. Krasnoselski, était plus prudent, en tout cas au début, il essaie de jongler, de faire en sorte d'acrobatie diplomatique entre Kiev et Moscou. Mais maintenant, la position est fermement, disons, pro-russe. Bon, il y a une armée russe qui est stationnée là-bas, qui contrôle beaucoup de choses, donc c'est clair. Et en plus, la région transnistrienne est économiquement encore dépendante du gaz russe. Et une grande partie de la population est quand même pro-russe, voire pro-soviétique, parce que ces deux filies, disons, de la population, il y a un enchevêtrement entre l'idée de pro-russisme et pro-soviétisme.
Mais Oleg Serebrian voit malgré tout des signaux positifs dans la situation actuelle.
C'est un espoir pour l'instant, mais je vois une dynamique positive dans les relations commerciales de la région transnistrienne, par exemple. 70% du commerce de la région transnistrienne est avec l'Union européenne. C'est important parce que cette dynamique s'était accentuée après le début de la guerre en Ukraine. Comme la Transnistrie, en réalité, est une enclave, On ne peut pas comparer la Transnistrie avec la région du Königsberg, par exemple, l'ancienne Prusse orientale, parce qu'il y a un débouché maritime. Donc cette fragilité économique, géopolitique, géographique même, va nous aider sans doute à retrouver cette intégrité territoriale.
L'ébauche du rapprochement entre la Moldavie et la Transnistrie se joue avant tout au plan économique entre citoyens.
90% de la population de la région a demandé la nationalité moldave. C'est déjà quelque chose, parce que juste maintenant, une grande partie de la population, pour travailler ou pour voyager tout simplement à l'étranger, utilisait le passeport russe, voire le passeport ukrainien, certains d'entre eux le passeport bulgare aussi. Mais maintenant, 90% ont demandé la nationalité moldave. Chaque matin, plus de 20 000 personnes viennent travailler sur la rive droite. À Chisinau, par exemple, chaque troisième chauffeur de taxi vient chaque matin du Bender ou du Tiraspol. C'est important parce qu'ils trouvent travail ici. Les salaires sont 2-3 fois plus hauts ici que dans la région transnistrienne. Beaucoup de médecins qui travaillent ici, beaucoup des ingénieurs. La majorité des jeunes de la région transnistrienne font leurs études ici. Donc au niveau sociétal, malgré l'opposition des autorités de Tiraspol d'empêcher cette intégration économique et sociétale, les choses ont bougé. Et ils ont commencé à bouger, notamment après l'invasion russe contre l'Ukraine.
Oleg Serebrian, au micro d'Étienne Bouche. L'hydrogène vert, c'est le nouvel Eldorado. Cette énergie pourrait permettre à l'industrie et au secteur des transports poids lourds et de passagers de remplacer le gaz et d'atteindre la neutralité carbone. Or, le marché n'en est qu'à ses débuts. En Allemagne, l'ancienne ville minière d'Essen, dans l'ouest du pays, souhaite se positionner comme l'une des pionnières en la matière. Delphine Nerbollier l'a vérifié sur place.
Bienvenue sur le site de l'ancienne mine.
Nous sommes à Essen, au cœur de la région industrielle de la Ruhr. Nous sommes plus exactement sur le site de l'ancienne mine de charbon, où jusqu'en 1986, près de 8000 mineurs ont chaque jour extrait la houille qui a fait la réputation de la Ruhr. Aujourd'hui, les immenses bâtiments de briques brunes accueillent musées et autres lieux de production artistique. Mais la reconversion économique d'Essen ne se limite pas à la culture. L'ancienne cité minière mise depuis peu sur l'hydrogène, le nouvel Eldorado énergétique. Eric Bauer est chargé de ce dossier à la Société de développement économique d'Essen. Il liste les projets concrets en cours dans la région.
Notre flotte de presque 300 bus urbains va passer à l'hydrogène d'ici 10 ans. Les premiers véhicules sont commandés. Ils devraient entrer en fonction cette année et transporter des passagers. L'industrie aussi se met en ordre de marche, avec pour l'instant des projets pilotes et en phase de test. C'est le cas du métallurgiste ThyssenKrupp qui fait passer son usine d'acier de Duisbourg à l'hydrogène. Il y a aussi le verrier Veralia qui teste le passage de brûleur à gaz vers l'hydrogène et observe les effets sur la qualité du verre. Là aussi, il se passe beaucoup de choses.
Si Essen mise sur le développement de l'hydrogène, c'est parce que les autorités allemandes ont donné l'impulsion avec une stratégie nationale lancée en 2020. L'Allemagne veut atteindre la neutralité carbone d'ici 2045 et elle doit trouver des solutions pour son industrie et ses transports. L'hydrogène, surtout s'il est vert, en est un élément clé. Sur ce dossier, Essen a des cartes à jouer. Deux des plus grands énergéticiens du pays y ont leur siège, E.ON et RWE. Elle compte aussi plus de 250 entreprises spécialisées dans l'énergie. Parmi elles, Cretotech. Son patron, Martin Wilhelm, a décidé l'an dernier de quitter le secteur de l'éolien et du solaire pour se lancer dans l'hydrogène.
Nous avons travaillé pendant des années dans le secteur des applications et des batteries pour l'éolien et le solaire, dans le domaine de l'électronique de puissance. Mais l'éolien est un marché où il y a beaucoup de monde. L'hydrogène, au contraire, est un marché jeune, qui est hautement dynamique. Il est très prometteur et nous voulons en faire partie.
Nous avons rencontré Martin Wilhelm sur le site d'un salon professionnel spécialisé dans l'énergie et qui se déroule justement à Essen. Cette année, l'hydrogène occupe une halle entière, preuve du succès de cette branche. Martin Wilhelm juge la région idéale pour ce nouveau business.
Essen, c'est l'une des capitales européennes en matière de trading de l'énergie. Il y a aussi encore une forte industrie qui, dans le cadre du changement climatique, cherche à se décarboner. Et il y a de nombreux centres d'enseignement supérieur. C'est important pour nous si nous voulons nous développer et recruter du personnel.
C'est aussi à Essen que se prépare une partie du transport de l'immense quantité d'hydrogène dont l'Allemagne aura besoin d'ici 2030. Un hydrogène qu'elle devra importer pour près de 80%. Pour la transporter, il faut donc des pipelines. Et ça tombe bien, l'entreprise OGE, basée à Essen, en a. Elle gère 12 000 km de réseau de gaz dans l'ouest du pays et compte bien s'en servir pour l'hydrogène. C'est ce que nous explique Sabine Augustin du groupe OGE, rencontrée elle aussi au Salon de l'énergie d'Essen.
Nous ne faisons pas seulement des projections, nous avons des plans très clairs. Dès 2025, nous allons transporter de l'hydrogène via un réseau transrégional. À partir de 2028, nous allons relier la côte de la mer du Nord à la région industrielle de la Ruhr. Et en 2030, nous atteindrons la Bavière et la frontière autrichienne.
Toutes les tailles d'entreprises, même les start-up, misent sur l'hydrogène. Le premier incubateur européen spécialisé dans ce domaine se trouve à Essen. Il aide les entreprises innovantes à trouver des partenaires sur un marché encore loin d'être rentable. Uwe Kerkmann dirige cet incubateur.
Contrairement à d'autres secteurs d'innovation, l'hydrogène est poussé par les politiques. Nous avons des objectifs climatiques, nous savons comment les atteindre, mais le marché n'est pas encore mûr. Pour les start-up, c'est un vrai défi, car elles ne peuvent pas trouver d'investisseurs et de partenaires qui feront des profits à court terme. Elles doivent trouver des partenaires qui savent que le marché se développera dans les prochaines années. C'est donc important qu'elles trouvent du soutien en la matière. Cela rend ce secteur très spécial.
Si ce marché de l'hydrogène n'en est qu'à ses débuts, l'ensemble des acteurs ici à Essen est persuadé de son succès à venir. Il faut donc occuper la place dès à présent, un vrai pari sur l'avenir.
Et l'Espagne est gagnée à son tour par la fièvre de l'hydrogène vert. Près de 40% des projets de production de ce type en Europe sont réalisés dans le pays. La péninsule ibérique, alliée au Portugal, entend bien être les premiers producteurs européens. Les explications de Diane Cambon.
Du nord au sud de la péninsule, la fièvre de l'hydrogène a gagné l'Espagne. Les projets d'investissement se multiplient alors même que cette énergie n'a pas encore démontré sa viabilité économique. Qu'importe, le gouvernement socialiste a annoncé une feuille de route en 2020 dont les objectifs initiaux ont déjà été dépassés. Le pays dispose aujourd'hui d'une capacité de 15,5 gigawatts alors qu'il était prévu d'atteindre les 4 gigawatts en 2030. Toutes les entreprises exploitent ce filon. La compagnie pétrolière Cepsa veut dépenser 3 milliards d'euros pour créer une vallée de l'hydrogène vert en Andalousie. Au nord, dans les Asturies, la société espagnole de pipeline Enagas et le géant mondial de l'acier ArcelorMittal vont créer un hub réunissant 30 entreprises. À Puerto Llano, dans le centre du pays, en Castille-la-Manche, se trouve le Centre national de l'hydrogène, formé par l'État et la compagnie électrique Iberdrola.
Diane, ce pari espagnol n'est-il pas risqué ? Est-ce que le secteur des énergies renouvelables peut suivre.
Avec son vaste territoire dépeuplé, balayé par les vents et bénéficiant de plus de 2500 heures d'ensoleillement par an, l'Espagne offre des conditions idéales pour implanter les énergies renouvelables comme l'éolienne et le solaire, qui sont les deux sources d'énergie indispensables pour fabriquer de l'hydrogène vert. Mais comme le reconnaissait la ministre de l'Environnement, Teresa Ribera, cela demande un énorme volume de production d'énergie renouvelable supplémentaire et cela suppose un coût financier élevé. Cet investissement ne sera donc rentable qu'à long terme. D'ici là, il faudra encore avoir recours aux énergies fossiles.
Diane Cambon, correspondante pour Accent d'Europe à Madrid. La Norvège est le pays d'Europe où l'on parle le mieux l'anglais. Cela menace-t-il à terme la langue norvégienne parlée seulement par 5 millions de locuteurs à travers le monde ? Eh bien, c'est la crainte exprimée par le Conseil de la langue dans une tribune très remarquée qui s'inquiète de l'usage croissant de l'anglais au détriment du Samfunnsbarendespråk, comme on dit en Norvège, avec un meilleur accent, la langue qui porte la société. C'est la chronique en un mot signée Carlotta Morteo.
Dagmar, on est en interview. Comme tous les Norvégiens, Tanya Vibi, 48 ans, a appris l'anglais tout au long de sa scolarité à partir de 9 ans. Elle habite Moss, au sud d'Oslo, et travaille pour une agence photo. Elle ne parle jamais l'anglais dans sa vie de tous les jours, sauf parfois avec son beau-frère qui est américain.
Le norvégien est clairement notre langue. L'anglais est juste un outil très utile pour nous dans le monde, car nous sommes un peu isolés sinon, vu que personne ne parle notre langue. On n'a pas trop le choix, je dirais que tous les Norvégiens sont très bons en anglais. Les films sont diffusés en version originale, il y a des sous-titres en norvégien, mais jamais de doublage. De nombreux dessins animés pour enfants sont aussi en anglais. Nous sommes exposés à l'anglais essentiellement par la télévision. Enfin, sauf les enfants, ils jouent énormément à des jeux vidéo en anglais. C'est pour ça que, je pense, certains disent que le norvégien est menacé. Ma génération n'est pas tellement concernée, mais je vois que mes deux enfants, qui ont 10 et 13 ans, insèrent de nombreux mots anglais dans leur norvégien. Par exemple, ils conjuguent des verbes anglais avec la terminaison norvégienne et ils utilisent des mots anglais issus des jeux vidéo, même pour parler avec moi. En tant que mère, je sais que mes enfants connaissent le norvégien, donc je ne m'inquiète pas trop pour eux, mais plutôt à terme, pour la culture et la langue elle-même. Ce serait dommage que le norvégien change à cause de l'anglais, parce que c'est une belle langue, riche, avec une grande diversité d'accents selon les régions. Mais je vois poindre la menace. Quand ils seront grands, c'est sûr, ils n'auront pas de scrupules à écrire des mots en anglais dans les journaux.
And putting these English words into the newspaper articles.
Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre. Dagen i dag, den kan bli vår beste dag.
De quoi pousser le conseil d'administration du Sprogradet, l'agence tutélaire chargée de la sauvegarde du norvégien, à tirer la sonnette d'alarme. Et même à menacer de démissionner si rien n'est fait, si des ressources supplémentaires ne sont pas fléchées vers la protection du norvégien.
L'anglais a un très haut statut en Norvège. Et c'est comme si on s'attendait à ce que tout le monde le parle. Bien sûr, ce n'est pas un problème de maîtriser l'anglais. Et c'est très positif que notre société ait un aussi bon niveau. Je ne pourrais pas m'entretenir avec vous, sinon.
Lars Ivar Nordahl est chargé de l'éducation supérieure au sein du Conseil de la langue.
Mais l'objectif des politiques linguistiques, c'est de s'assurer que le norvégien continue de se développer. Nos lois défendent le « Samfunnsbærenspråk ». C'est un mot qui veut dire « la langue qui porte la société ». Ça signifie que le norvégien doit pouvoir être utilisé dans tous les domaines. Mais aujourd'hui, dans les universités par exemple, on voit que le norvégien n'existe pas dans des pans entiers de la recherche. La terminologie spécialisée en anglais n'a pas d'équivalent norvégien. Donc ça devient très difficile de discuter de ces sujets dans l'espace public en norvégien, dans les débats politiques ou les médias. C'est un problème d'écosystème. C'est très important de pouvoir penser en deux langues, dans une même tête, comme on dit en norvégien.
Curieuse expression née du fait qu'il existe en réalité deux langues nationales norvégiennes, deux dialectes officiels.
On parle le ninoche et le bokmål. L'État régule leur utilisation dans les services publics en particulier, mais aussi dans sa communication numérique ou sur les chaînes de télé et de radio publiques. Chacune doit être représentée dans au moins 25% des contenus. Ils n'auront pas de scrupules à écrire des mots en anglais dans les journaux.
Sauf que ça n'est pas respecté. Le ninoche utilisé au quotidien par environ 10% des Norvégiens, à Bergen et dans les zones rurales de l'ouest du pays, est progressivement délaissé au sein même des institutions de la fonction publique. Les langues samis, parlées par les autochtones du Grand Nord, sont quant à elles en voie de disparition. L'émergence de l'anglais dans les milieux universitaires, chez les enfants, mais aussi dans la chanson et sur la scène musicale, s'inscrit dans ce contexte linguistique sensible où l'État peine, malgré des lois et des financements, à maintenir vivant le plurilinguisme en Norvège.
Accent d'Europe à la réalisation, Françoise Grelot, tous les jours sur vos antennes, mais vous pouvez aussi retrouver le podcast de l'émission sur RFI.fr, sur l'appli Pure Radio et sur les plateformes d'écoute. À bientôt.